Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble comme chaque soir jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes et puis on ouvre le Club des Idées. Ce soir, un entretien exceptionnel au programme que l'on vous propose avec le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, l'état de la menace terroriste, sa vision des armées et de la défense nationale, la situation au Mali aussi, on en parlera avec lui car une grande opération aurait été menée contre des terroristes. Sa parole est rare, nous serons avec lui jusqu'à 20h pour lui poser toutes les questions. Et puis à 19h15, ce sera la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson qui nous parlera ce soir de ses prédictions pour les États-Unis. Il est 19h, c'est l'heure du journal avec Isabelle Millet. 19h tout pile, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Si les moyens ne sont pas mis, enfin, c'est sûr qu'on va vers des reconfinements successifs.
Les sombres prévisions du Conseil scientifique. Il y a devant nous de nombreux mois avec une situation extrêmement difficile.
L'hommage à Samuel Paty dans les écoles, collèges et lycées de France. Nous serons à Lyon, où le professeur d'histoire géo a fait une partie de ses études supérieures.
La perpétuité requise contre Sid Ahmed Glam pour l'assassinat d'Aurélie Chatelain et l'attentat avorté de l'église de Villejuif.
On verra également que le Premier ministre a remis sur la table hier un débat inflammable en évoquant la colonisation.
Et puis nous serons aux États-Unis évidemment, à J-1, le journal de campagne de Xavier Yvon. Comme tous les soirs, les sondages le donnent perdant, mais Donald Trump, pourtant, est sûr de gagner.
La tendance météo de la fraîcheur au programme, ma chère Anissa, pour demain.
Et oui, nous allons perdre 8 à 10 degrés demain sur le Grand Est de la France. Une perturbation va toucher une grande diagonale des Pyrénées jusqu'au Grand Est. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La France affronte donc de plein fouet sa seconde vague et son second confinement.
Et elle n'est pas la seule, hein. C'est toute l'Europe qui est en guerre contre cette épidémie. Une guerre qui pourrait durer de longs mois, si l'on en croit Victor Delande, les dernières prévisions pessimistes du Conseil scientifique.
Oui, dans son dernier avis, le Conseil scientifique redoute en effet plusieurs vagues successives entre la fin de l'hiver et le printemps prochain. Il faut donc s'attendre à de nombreux mois avec une situation extrêmement difficile dans les hôpitaux, comme l'a confié ce soir Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris.
Si les moyens ne sont pas mis, enfin, c'est sûr qu'on va vers des reconfinements successifs. Donc il faut maintenant être sérieux, il faut tirer les leçons du déconfinement qui a été raté. Il faut tirer les leçons du fait que nous n'avons pas suffisamment de moyens avec un système de santé qui n'est pas suffisamment robuste. Et il faut, par exemple, avoir une politique d'isolement.
Un meilleur isolement, donc, et mieux cibler aussi les personnes à tester, car pour le moment, la France court après l'épidémie sans jamais réussir à la contrôler. En annonçant le reconfinement, au moins jusqu'au 1er décembre prochain, Emmanuel Macron a indiqué que l'objectif était de parvenir à 5000 cas de contamination par jour. On va donc ralentir la circulation du virus sans jamais l'éteindre totalement. Mais avec cette stratégie, on file droit vers une alternance de déconfinement et de reconfinement.
Victor Delande du service Société d'Europe 1 avec une petite touche d'optimisme quand même dans ce marasme. 7 millions de téléchargements pour tous anti-Covid, moins de 2 semaines après son lancement. La nouvelle application de traçage des cas contacts commence enfin à être adoptée par les Français, beaucoup plus en tout cas que Stop Covid qui avait fait un flop.
Partout en France, et l'autre grand titre ce soir, les écoliers, les collégiens, les lycéens ont rendu ce matin un hommage à Samuel Paty.
Avec une minute de silence dans tous les établissements et la lecture d'une lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, un hommage qui a pris une résonance particulière à Lyon, au lycée Édouard Herriot. C'est là en effet, Jean-Luc Bougeon, que Samuel Paty a été scolarisé en hippocagne.
Oui, Samuel Paty avait 18 ans quand il est entré en prépa littéraire dans ce grand lycée lyonnais où la résistante Lucie Houbrac fut enseignante pendant la guerre. Lui y a été élève 2 années entre 91 et 93 avec un goût particulier pour les cours d'histoire de M. Folliet qui feront naître sa vocation de professeur. C'est donc pour cela que l'hommage qui lui a été rendu ce matin avec notamment la diffusion de sa chanson préférée One de U2 dans les haut-parleurs du lycée a résonné de manière très émouvante, explique le proviseur José Vasquez.
C'était un moment très fort. La diffusion de cette chanson, c'était pour nous une manière un peu plus particulière de lui rendre aujourd'hui hommage. C'est aussi dans ces moments très pénibles l'occasion de revenir à de vraies valeurs de solidarité et je pense que ces épisodes dramatiques vont souder les gens plus que jamais.
Émus aussi les élèves de classe prépa, successeurs 30 ans après du professeur d'histoire sur les bancs du lycée.
C'est touchant de se dire qu'un professeur qui voulait seulement faire son métier d'enseignant et faire passer sa passion pour la liberté d'expression à ses ses élèves aient été sur les mêmes bancs que nous. Ça rajoute une dimension encore plus triste et émouvante, je pense.
Voilà, une journée d'hommage à Samuel Paty, plus complète encore, devrait avoir lieu dans les prochaines semaines au lycée Édouard Herriot. Et une plaque en sa mémoire pourrait aussi être apposée prochainement sur sa façade.
Jean-Luc Beaujean, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Oui, à noter que cette rentrée scolaire pour les 12 millions d'élèves a été particulière avec le contexte sanitaire et l'obligation désormais de porter le masque dès l'âge de 6 ans. 19h04, l'heure du réquisitoire au procès de l'attentat manqué de Villejuif et de l'assassinat d'Aurélie Châtelain devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Oui, c'est un procès qui a pris un relief particulier dans le contexte actuel. La perpétuité, peine la plus lourde requise donc ce soir contre le principal suspect Sid Ahmed Glam. Perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. L'avocat général a dressé Justin Morin le portrait d'un tueur au sang-froid qui avait prévu de tuer un maximum de personnes ce 19 avril 2015.
Oui, il ressort de ce réquisitoire une sensation vivace, l'impression que l'avocat général a détricoté méthodiquement, pièce par pièce, le costume de repenti que Sid Ahmed Glam s'est composé sur mesure depuis les faits. À la cour, elle le présente sans phare. Vous avez à juger un terroriste qui se masque froidement derrière la figure de l'étudiant isolé, du naïf manipulé, autant d'échappatoires au service d'un ego démesuré. Le parquet ne croit pas à sa radicalisation rapide, mais plutôt à une idéologie aboutie, réfléchie, qui légitime d'assassiner un enfant, un vieillard, une femme, rappelle l'avocat général, tant qu'ils sont mécréants. S'il n'a pas fait plus de victimes, c'est parce qu'il s'est accidentellement tiré dans la cuisse. Quant à ce mystérieux complice, Abou Hamza, invoqué par Sid Ahmed Glam pour se décharger, l'avocat général tranche, il n'y a pas d'Abou Hamza, à part dans l'esprit calculateur, dissimulateur de Sid Ahmed Glam. Pour les parents d'Aurélie Châtelain, il faut entendre à nouveau le récit de la mort de leur fille et à nouveau, il faut baisser la tête, cacher les larmes. Mais l'avocate générale ne les a pas oubliées. Elle pointe l'accusé du regard et interpelle la cour. Sid Ahmed Glam est le seul responsable de la mort d'Aurélie Châtelain. Souvenez-vous comment son ex-compagnon a dû expliquer à leur petite fille de 5 ans que sa mère ne reviendra pas, non pas parce qu'elle a eu un accident, mais parce que quelqu'un lui a fait du mal. Voilà ce que vous devrez juger.
Justin Morin qui suit donc pour Europe 1 ce procès devant la cour d'assises spéciale de Paris où il était en direct. Pour les 7 autres accusés présents, les peines requises vont de 5 ans avec sursis à 30 ans de réclusion. Le procès des attentats de janvier 2015 a lui été interrompu à 15 jours du verdict. L'audience est suspendue au moins pour une semaine après que 3 accusés ont contracté le virus.
Si vous avez écouté le Premier ministre Jean Castex hier soir à la télévision sur TF1, vous avez peut-être noté cette phrase qui fait depuis beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.
Oui, le chef du gouvernement revenait sur l'attentat contre Samuel Paty et celui de Nice et il a fustigé toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, a-t-il dit, les justifications à l'islamisme radical. Nous devrions nous auto-flageller, a-t-il dit, regretter la colonisation. Une allusion à la colonisation pour le moins maladroite, Adrien Beck.
Oui, au détour d'une phrase, quelques mots sur un sujet risqué. Jean Castex voulait en fait illustrer une culpabilité qui favoriserait une forme de détestation de la France, une théorie très souvent développée à droite, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé à la gauche. Effrayant, c'est par exemple exclamé l'insoumise Clémentine Autain. Bref, début de polémique et gêne au sein de l'exécutif. Ces mots, il faudrait faire un paragraphe complet pour les expliquer, reconnaît un proche de Jean Castex qui admet une phrase malheureuse. Surtout, sur le fond, ses propos tranchent avec ceux d'Emmanuel Macron. « Nous regardons notre histoire en face », disait encore 24 heures avant le chef de l'État sur Al Jazeera. En campagne, il avait même décrit la colonisation comme un crime contre l'humanité, créant lui aussi à l'époque la polémique. Hier soir, Jean Castex a en tout cas remis sur la table un débat inflammable. Tout cela à quelques jours d'un déplacement sensible du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en Tunisie et en Algérie.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Il y aura finalement une tolérance jusqu'à mercredi pour que les grandes surfaces ferment les rayons de produits non essentiels.
La Fédération de la grande distribution dénonce toutefois une décision perdant-perdant. Alors on connaîtra demain la liste de ces fameux produits. A priori sans doute les jouets, les vêtements, les chaussures, les produits de maquillage. En tout cas Bercy planche sur la question avec les intéressés. C'est un casse-tête. Par ailleurs les commerçants redisent aujourd'hui qu'ils veulent pouvoir rouvrir tous les magasins dès le 13 novembre. Et puis vous savez que depuis aujourd'hui, on n'a plus le droit de pratiquer son culte, d'aller à la messe en raison de la situation sanitaire. Eh bien, information Europe 1, l'Église a décidé de déposer un référé contre cette interdiction. Elle attaque l'État et elle en a informé le Premier ministre dans une lettre qu'elle lui a adressée il y a 2 jours.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite de votre journal à 19h10, Isabelle Millet, c'est donc le D-Day demain de l'autre côté de l'Atlantique.
Et on retrouve tout de suite Xavier Yvon en direct. Bonsoir Xavier.
Hello, bonsoir à tous.
Alors d'abord, donnez-nous quand même des nouvelles des deux candidats. Que font-ils de leur dernier jour de campagne? Où sont-ils?
Alors, je regarde parce que c'est pas facile de suivre Donald Trump aujourd'hui. Il enchaîne 5 meetings dans 4 états différents du nord au sud. Donc là, il est en train, je crois, de terminer en Caroline du Nord. Pour Joe Biden, c'est plus simple. Il passe la journée en Pennsylvanie. Le démocrate met toutes ses forces dans son état natal, dans cette dernière ligne droite. Il y a lui-même, sa femme Jill, sa colistière Kamala Harris et son mari qui feront campagne aux quatre coins de la Pennsylvanie aujourd'hui, avec la chanteuse Lady Gaga en renfort pour le tout dernier meeting de la journée. Comme pour Hillary Clinton il y a 4 ans, au moins ils ne sont pas superstitieux. L'enjeu de cette dernière folle journée, c'est de mobiliser les électeurs qui n'ont pas encore voté. Parce qu'à l'heure où on se parle, plus de 95 millions d'Américains ont déjà envoyé leur bulletin. C'est 2/3 de la participation totale d'il y a 4 ans.
Bien, et il n'y a pas que les candidats, Xavier, qui sont sur la route.
Oui, alors il y a aussi les supporters de Donald Trump qui étaient physiquement sur les routes hier. Des caravanes de voitures ornées de drapeaux Trump qui ont notamment encerclé un bus Biden au Texas et qui ont bloqué des ponts et des autoroutes autour de New York pour ce qu'ils appelaient une démonstration de force. Alors un petit point trafic, c'est fluide désormais. Vous roulez bien sur le Verrazano Bridge et la Garden State Parkway dans New Jersey.
Xavier, on le sait, le sujet principal de cette campagne, bien sûr, c'est la pandémie. Et ça se voit d'ailleurs hein, dans ces tout derniers meetings aussi. Hein.
Ah oui, c'est devenu un sujet totalement partisan au point d'avoir ce moment sidérant hier soir dans un meeting de Trump. Le président évoquait le docteur Anthony Fauci. Vous savez, c'est le monsieur pandémie américain, conseiller à la Maison Blanche, expert reconnu dans le monde entier. Récemment, il a critiqué la gestion de l'administration Trump. Écoutez la réaction de la foule.
Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election.
Alors, virer Fauci, ont réclamé les fans. Attendez un peu après l'élection, a répondu Donald Trump dans un grand sourire. Je rappelle quand même que la pandémie flambe en ce moment partout dans le pays.
Ambiance, ambiance. Alors, à la veille de l'élection, Xavier, tous les arguments, évidemment, sont permis, hein ?
Absolument tous. La campagne Biden, d'ailleurs, promet beaucoup de choses, hein. Le retour à la décence, à l'honnêteté, à l'unité. Et dans un petit clip, elle promet aussi le retour d'un chien à la Maison Blanche. Donald Trump est en effet le premier président à ne pas avoir de compagnon à quatre pattes depuis 130 ans. Joe Biden, lui, a deux bergers allemands nommés Champ et Major.
Avec le petit bruitage qui va bien. Et à propos de nom, Xavier, on termine avec le quiz du jour.
Oui, parce que je sais que vous aimez bien. Oui. Le New York Times publie une infographie du vote en fonction de votre prénom. Alors, les Donald, c'est pas très surprenant, ils votent en grande majorité Trump, évidemment. Les Karen sont plus pour Biden. Et donc, petite devinette pour vous, pour qui vote Barbara?
Je ne sais pas. Est-ce que c'est un nom républicain? Je vais dire oui pour Donald Trump.
Ah voilà, c'était un piège. Elle vote pour Biden. Ça a un intérêt, hein, cette question des prénoms, c'est que c'est une question de génération.
Bon, très bien. Merci, merci Xavier. Le journal de Xavier Yvon, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Et on a hâte, évidemment, de vous retrouver demain. Car demain... Eh bien, c'est le jour du scrutin. Avec à ne pas manquer également demain en exclusivité sur Europe 1, le témoignage de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. J'ai nommé John Bolton, invité exceptionnel de la matinale avec Mathieu Béliard. Ce sera à retrouver à partir de 7h40. Il a fait partie du premier cercle et il connaît parfaitement, vous l'entendrez, ce président qu'il qualifie aujourd'hui d'aberration.
Allez, après l'arène politique, l'arène sportive. C'est le coup d'envoi aujourd'hui du Masters 1000 de tennis de Paris-Bercy. Des matchs à huis clos, personne dans les tribunes. Heureusement qu'on vous a, Corinne Boulou. Corinne, 4 jeunes Français sur les cours pour ce premier jour et déjà de bons résultats pour eux.
Oui, puisque 3 d'entre eux se sont déjà qualifiés, après Corentin Moutet, 21 ans, et Hugo Humbert, 22 ans, 34e mondial d'ailleurs, après sa récente victoire à Anvers. Benjamin Bonzi, 24 ans, vient de les imiter. Un peu plus tard, eh bien, Hugo Gaston, la coqueluche du dernier Roland-Garros, fera son entrée sur le court principal. Il bénéficie ici d'une invitation logique, après son formidable parcours jusqu'en 8e de finale, où après avoir sorti le Suisse Wawrinka, il avait fait douter en 5-7 le numéro 3 mondial Dominic Thiem. Alors après un détour sans éclat par un tournoi challenger en Allemagne la semaine dernière, le jeune Toulousain de 20 ans retrouve Paris sous les feux des projecteurs, mais sans la clameur habituelle qui caractérise ce tournoi, vous l'entendez sans doute derrière moi. Et pour sa première ici, eh bien, il va se retrouver face à un sacré client, l'Espagnol Carreño Busta, 15e mondial, récent quart de finaliste Porte d'Auteuil et demi-finaliste à l'US Open. Mais Hugo Gaston, désormais 161e, a prouvé qu'il était capable de tenir la dragée haute aux meilleurs mondiaux. S'il retrouve son niveau de jeu de Roland-Garros, alors tout sera possible pour l'outsider français.
Quelle ambiance, en effet. Merci en tout cas Corinne Boulou qui suit pour nous ce tournoi de Paris-Bercy.
Eh bien, c'était le journal d'Isabelle Millet. Merci ma chère Isabelle et on se retrouve demain à partir de 18h pour Europe Soir. Un coup d'œil à la météo 19h15 avec
la météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Voilà, la publicité, j'avais oublié. Merci Anissa, vous nous avez rejoint pour un nouveau coup d'œil au temps, avec une chute des températures attendue demain.
Oui, surtout si vous nous écoutez dans le Grand Est, hein, de Strasbourg jusqu'à la Haute-Savoie. Demain, vous allez perdre 8 à 10 degrés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a battu les records de douceur. Alors, des Pyrénées aux frontières de l'Est, là, le temps sera couvert avec le passage d'une perturbation qui nous apportera des petites pluies du Pays Basque jusqu'à l'Alsace, en passant par l'Auvergne. À l'arrière de cette perturbation en Bretagne et Normandie, les éclaircies sont de retour. Demain après-midi, bonne nouvelle avec toujours quelques petites averses et toujours ce vent d'ouest qui souffle sur les côtes. Dans le sud, le ciel va se couvrir dans l'après-midi et la tramontane se lève demain avec des rafales jusqu'à 70 km/h. En montagne, la neige est de retour, c'est un vrai changement de temps demain. Des flocons à partir de 1400 mètres d'altitude sur les Pyrénées et les Alpes. Et les températures, elles sont en baisse, je vous le disais, 6 à 15 degrés le matin et 11 à 21 degrés seulement
et
demain après-midi.
Vous êtes content, vous dites avec le sourire.
Eh bien écoutez, c'est en fin de saison.
Je ne vous félicite pas.
Cette saison,
merci,
on est content.
Merci Anissa, on vous retrouve demain à partir de 18h. Il est 19h16 et comme chaque soir, on ouvre maintenant le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche du Club des idées, c'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, comme chaque lundi, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain essayiste Philippe Besson. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir Philippe, évidemment, vous allez nous parler des États-Unis, l'élection présidentielle américaine qui a donc lieu demain. Et vous vouliez nous livrer trois pronostics. Le premier d'entre eux, c'est que selon vous, Joe Biden va gagner.
Eh oui, alors je sais ce que vous allez me dire, hein, Julien, je vous connais. En 2016, Hillary Clinton, elle aussi, elle allait gagner, c'était plié. Tous les sondages nous l'affirmaient. Et on sait ce qu'il advint. Cela étant, je prends mon risque, comme on dit, quitte à être ridicule après-demain, et ce parce que la situation est singulièrement différente aujourd'hui.
Ah, en quoi est-elle différente cette situation, cher Philippe ?
Alors d'abord, l'avance de Biden est plus importante. 7 points contre 2 pour Hillary au niveau national, 3 points contre 1 dans les États bascules. Ce matelas devrait suffire quand on se souvient que Trump n'a emporté ces fameux États que d'une poignée de voix il y a 4 ans. Par ailleurs, les instituts de sondage ont amélioré leurs échantillons. En 2016, ils avaient manifestement sous-estimé le poids des électeurs blancs non diplômés dans la région des Grands Lacs, ceux-là même qui ont assuré la victoire de Trump. Ils ont cette fois corrigé ce biais. En 2016, beaucoup d'électeurs s'étaient décidés au dernier moment et avaient opté pour Trump. Cette fois, franchement, les indécis sont beaucoup, beaucoup moins nombreux. Donc, à part si les sondeurs sont tous d'une abyssale nullité, le résultat devrait être celui qui est annoncé.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs pour vous qui pourraient jouer en faveur de Biden ?
Et bien, en 2016, on s'en souvient, la réouverture à une semaine du scrutin de l'enquête du FBI sur les fameux emails d'Hillary Clinton avait provoqué une onde de choc. Cette année, il n'y a pas eu de surprise majeure. En 2016, il n'y avait pas une pandémie dévastatrice et un chômage considérable. Cette année, l'Amérique a peur. L'Amérique va mal. Par ailleurs, on peut déduire des chiffres du vote anticipé un surcroît de participation et notamment de la part des jeunes qui choisissent majoritairement Biden. Qui plus est, Trump ne bénéficie plus du statut enviable de l'outsider, il est aujourd'hui le président sortant. Enfin, Obama l'a très bien dit, les Américains sont épuisés par le cirque permanent que leur impose Trump, par l'hystérisation de la vie politique au quotidien et aspirent à un retour à la normale.
Et l'idée qu'il puisse y avoir un chaos dans les jours qui viennent, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, même Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, l'a reconnu, des violences sont possibles si Trump, comme il l'a laissé entendre, refuse de reconnaître sa défaite, prenant prétexte de la fraude supposée, mais jamais démontrée, que représenterait le vote par correspondance ou d'écart faible dans certains États. On peut alors se retrouver avec un marasme institutionnel et avec des milices d'extrême droite chauffées à blanc, prêtes à en découdre. Songez, on le disait tout à l'heure, que Walmart, le géant de la distribution, a décidé de retirer provisoirement les armes et munitions de ses rayons par précaution, qu'à New York, la police s'entraîne au contrôle des foules, que la garde nationale a été déployée à Philadelphie et que dans le centre de Washington, des immeubles ont barricadé portes et vitrines en prévision des manifestations qui suivraient la soirée électorale. Faut-il que Trump ait provoqué des ravages pour que la plus grande démocratie du monde en soit arrivée là ? Seule une victoire franche de Biden éviterait le pire.
Sauf que Philippe, y compris si Biden gagne cette élection, le Trumpisme ne disparaîtra pas avec Donald Trump.
Mais en effet, d'abord parce que son élection n'est pas un hasard de l'histoire, il faut se le mettre dans le crâne. Différentes formes du Trumpisme, avec son racisme, sa xénophobie et sa misogynie, ont été des forces motrices de l'histoire américaine. Ensuite, parce que ces électeurs, avec leurs difficultés sociales, avec leurs angoisses, leurs colères, ils disparaîtront pas. Et ils représentent plus de 40% des votants. Par ailleurs, on le sait, Trump a nommé 3 juges à la Cour suprême qui sont là pour des dizaines d'années et qui vont marquer le pays de leur conservatisme revendiqué. Mais surtout, surtout, les thèmes qu'il a portés, tels que la maîtrise de l'immigration, la fin du multilatéralisme, l'antagonisme avec la Chine, le protectionnisme, la défense des emplois américains, des valeurs américaines, tout ceci a infusé et tout ceci demeurera.
Bien, donc tout le monde a bien noté. Pronostic de Philippe Besson pour après-demain, les résultats.
Je viendrai comme Biden, à Canossa si je me suis trompé.
Joe Biden gagne l'élection américaine. Faites attention parce qu'on enregistre tout et on ressortira tout ça lundi prochain à la même heure. Merci mon cher Philippe.
Merci Julien.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir à 19h23, un grand entretien exceptionnel dans le Club des Idées, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, est notre invité jusqu'à 20h. Bonsoir mon général.
Bonsoir monsieur.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment revenir sur tout un tas de sujets. On a beaucoup de questions à vous poser sur l'actualité, sur l'engagement des armées face à la menace terroriste, en France notamment, et sur aussi votre vision de la défense nationale. D'abord, je voudrais avec vous qu'on évoque cette opération d'envergure au Mali, révélée par la ministre de la Défense, Florence Parly. Je vous propose d'abord de l'écouter depuis le Niger.
Une opération très importante a eu lieu à partir du début du mois d'octobre de façon conjointe, qui s'est terminée tout récemment. Nous en tirerons évidemment ensemble les leçons. Mais je crois pouvoir dire que jamais nous n'avions atteint ce niveau d'intégration entre nos forces.
Avec une opération particulière, mon général, qui s'est tenue, je crois, vendredi et qui a visé plusieurs terroristes ou groupes djihadistes qui ont été neutralisés, c'est cela ?
Oui, absolument. Alors, de manière générale, de toute façon, cette opération, elle est un effort marqué à la fin de la saison des pluies, au moment où le terrain peut recommencer à être praticable dans la région de l'Iptako, où sont déployées les armées françaises et la force Barkhane et les armées partenaires, et nos partenaires européens d'ailleurs. Et donc, comme de façon récurrente on le fait, on marque un effort particulier de plusieurs semaines en engageant la totalité des moyens disponibles. Là, on a engagé plus de 3000 hommes pour une force totale de 5100 hommes pour l'opération Barkhane. Donc ça représente des effectifs considérables compte tenu de ce qui doit par ailleurs être réparti sur l'ensemble de la zone sahélienne. Et vous avez raison, il y a eu dans le cadre de cette opération un engagement du commandement des opérations spéciales dans la région de Boulikessi qui a été particulièrement efficace.
Combien de cibles ont été neutralisées ?
Dans la région de Boulikessi, là, sur ce qui s'est fait à la fin de la semaine dernière, il y a une soixantaine d'hommes qui ont été neutralisés. Ça représente une katiba. C'est dans la zone d'Ansarul Islam. Et c'est un succès important qui est apporté, encore une fois, à l'engagement fort de Barkhane, mais également du commandement des opérations spéciales. C'est un succès parce que ça permet, une fois de plus, de désorganiser l'ennemi, de montrer qu'il est un peu aux abois. Et de plus en plus, et ça permet surtout de mettre cet ennemi-là à hauteur de nos partenaires. Je pense que ce que disait la ministre, et c'est très, très juste, c'est le niveau d'intégration auquel on parvient au cours de cette opération, avec les forces maliennes, avec les forces nigériennes, et pour la première fois maintenant, avec des partenaires estoniens engagés dans le task group franco-estonien de l'opération Takuba, qui ont accompagné au combat des forces maliennes d'une centaine d'hommes, en travaillant en coopération avec des forces nigériennes, tout ça est quand même extrêmement satisfaisant.
Quand vous dites neutraliser, mon général, ça veut dire qu'ils ont été tués ?
Oui, ça veut dire qu'ils ont été tués, pas tous. Il y a eu des prisonniers qui ont été faits. On essaye toujours au maximum de faire des prisonniers pour avoir du renseignement, pour les exploiter, et puis surtout pour les faire juger après.
C'est un groupe qui s'apprêtait, dit-on, à lancer une attaque contre des cibles civiles et des cibles locales ?
Vous savez, malheureusement, tous ces groupes se préparent en permanence à lancer des attaques. Ce qui est vrai, c'est que quand il y a des regroupements qui permettent, par saisie d'opportunité, de neutraliser de façon importante, c'est qu'il y a la préparation d'une action plus particulière. Oui,
oui, c'est un groupe qui est affilié à quel groupe terroriste, Al-Qaïda, l'État islamique ?
À Ansarul Islam, qui lui-même est affilié au RVIM, Rassemblement pour la victoire de l'islam au Mali, qui dépend évidemment de l'Iyad Ag-Ghali.
Oui, le malien. Qui est, donc, dit-on, réfugié en Algérie.
Ah, je ne sais pas où il est réfugié. Si vous le savez, ça m'intéresse.
On a beaucoup dit ça. On a beaucoup dit qu'il se cachait quelque part en Algérie et que les forces françaises avaient du mal, par conséquent, à l'atteindre.
Nous, je pense surtout qu'il est très habilement d'abord implanté dans une partie de soutien de population du nord du Mali. Et je pense qu'il joue avec les frontières. D'ailleurs, c'est une des difficultés auxquelles nous sommes de manière générale confrontés dans ces opérations. C'est aussi la raison pour laquelle on a créé la force conjointe G5 Sahel. C'est aussi pour la raison pour laquelle on a décidé de faire des opérations transfrontalières. Mmh. c'est que effectivement, ces groupes terroristes jouent en permanence des frontières.
Sait-on aujourd'hui, mon général, combien de combattants djihadistes sévissent au Mali et dans la bande Sahel ?
C'est une question à laquelle il est très très difficile de répondre. Pourquoi ? Parce que vous avez des katibas, comme je l'ai exprimé à l'instant, qui sont des djihadistes aguerris et qui forment de véritables unités militaires ou paramilitaires. Ces katibas sont associés parfois avec une partie de la population sur laquelle ils font pression. Vous avez des sympathisants. Vous avez par ailleurs une sorte de confusion entre la propagande islamiste comme celle d'Al-Qaïda et des confrontations de nature plus ethnique.
Du volume d'individus contre lequel se bat la force Barkhane et la force française ?
Je pense que la force française Barkhane, dans la région du Liptako, elle est confrontée à 1500 hommes à peu près.
1500 hommes.
Voilà.
Merci Général, vous restez avec nous évidemment, on se retrouve dans quelques secondes et on évoquera les autres sujets qui sont les vôtres et qui sont par définition les nôtres, notamment la menace terroriste en France. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on est toujours avec notre invité exceptionnel dans le Club des Idées. Grand entretien ce soir avec le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui est avec nous jusqu'à 20h. Mon général, on évoquait cette opération, ce succès de la force Barkhane au Mali et dans la bande Sahel, réalisé depuis plusieurs semaines avec un point d'orgue, notamment, vous l'évoquiez juste avant la pause ce vendredi. C'est un succès, on l'imagine, bienvenu. Après notamment la libération par le Mali de plus de 200 djihadistes lors de l'opération d'échange des otages, dont la Française Sophie Pétronin. Ça vous a mis en colère qu'on libère autant de combattants djihadistes qui, par définition, sont des ennemis de la France et des soldats Barkhane ?
Oui, de manière générale, vous savez, les soldats français et leur chef d'état-major combattent sans colère. Donc je ne me mets pas en colère pour cela. Ce qui est clair, c'est que ça a renforcé la position d'Iyad Ag-Ghali, qui est quand même objectivement le chef ennemi terroriste que nous combattons le plus activement, qui certainement a tiré une partie de prestige vis-à-vis de la population de ce qu'il a obtenu par la libération de ses prisonniers.
Et qui d'ailleurs, pardon mon général, mais qui d'ailleurs ne s'est pas privé de divulguer des photos de leur retrouvaille avec Al-Ghali. On a vu des photos passer sur les réseaux sociaux où on a vu ces djihadistes qui ont été libérés par les forces maliennes pour libérer les otages avec Al-Ghali.
Oui, c'est vrai. C'est une remarquable opération de communication stratégique de la part d'Iyad Ag-Ghali. Et puis par ailleurs, il a reconnu, ou en tout cas, il s'est fait reconnaître une forme de légitimité puisqu'il a eu une négociation directe avec le pouvoir malien. Voilà. Donc, évidemment, cela va à l'encontre d'abord de tout ce que nous faisons depuis le début pour aider le pouvoir malien à combattre contre cette organisation terroriste, qui, il faut le rappeler, est véritablement une organisation terroriste, avec des modes d'action, des modes opératoires, des attitudes et des comportements vis-à-vis de la population qui ne sont pas acceptables et qui a d'ailleurs un objectif très clair, qu'il suit de façon absolument transparente, comme succursale de cette internationale terroriste et islamiste, qui est d'établir la charia dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, évidemment, de voir cette libération d'otages qui, très clairement, est exploitée par Iyad Ag-Ghali comme une opération de communication stratégique astucieuse, ça ne nous arrange pas et ça peut affaiblir y compris le gouvernement malien. Et puis par ailleurs, ça veut dire qu'on va retrouver une partie de ces gens qui ont été libérés contre nous et qu'il y a une forme de contradiction à aider les Maliens à essayer de se mettre au niveau de cet ennemi en abaissant l'ennemi et en formant les Maliens, et voir ce gouvernement malien qui, pour des raisons qui lui sont propres, effectue cette opération de libération de prisonniers. Voilà, ça ne me met pas en colère pour autant, c'est une donnée du sujet, et je pense qu'il faut être clair sur la volonté maintenue par la France de continuer à combattre Iyad Ag-Ghali.
Est-ce que, par ailleurs, parce que vous l'évoquez, mon général, c'est vrai que c'est un changement stratégique inédit tout de même de négocier avec les groupes terroristes, est-ce que par conséquent, on peut encore considérer que la junte au pouvoir au Mali est encore un partenaire de confiance dans la lutte antiterroriste ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que déclarait il y a peu le président de la commission de défense du Sénat, Christian Cambon, qui est très investi sur les questions de l'engagement français au Mali. Est-ce que le pouvoir malien est aujourd'hui encore un partenaire à qui on peut faire confiance ?
Moi d'abord, je pense que cette libération de prisonniers, elle avait été initiée par le pouvoir précédent. Et donc je ne fais pas de différence entre le pouvoir précédent et la junte actuelle, ou en tout cas le gouvernement de transition actuel, dans cette affaire précise de libération de prisonniers.
Oui.
Ce qui est clair, c'est que nous sommes là, non pas en acteur primo-intervenant au Mali, mais en partenaire d'un gouvernement qui a demandé à la France d'intervenir au Mali et qui lui a demandé d'intervenir dans une situation désespérée. Et si on ne peut pas se fier à ce gouvernement, effectivement, ça nous pose des conditions considérables, puisque le point d'application principal du succès de nos opérations, c'est la capacité qu'a ce partenaire à remplir ses engagements et à se monter à la hauteur de la menace terroriste qu'il a sur son propre sol. Je ne peux pas vous dire d'autre chose que nous faisons tout ce que nous pouvons, et en tout cas avec les interlocuteurs militaires qui sont les nôtres dans le gouvernement de transition actuel, pour convaincre ces interlocuteurs de conduire le combat. Et à ce stade, j'ai plutôt des avances et en tout cas des engagements assez favorables de la part des opérationnels maliens.
Alors, on va parler de la menace terroriste en France, évidemment, qui nous concerne et qui concerne aussi les armées qui ont été appelées en renfort pour l'opération Sentinelle. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, les forces djihadistes au Sahel, au Mali et ailleurs, ont les moyens de projeter des équipes terroristes en France, comme ça a pu être le cas, par exemple, avec les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan ? Est-ce que c'est possible, ça ?
Très honnêtement, je pense que tout est possible. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la priorité de ce groupe qui est encore une fois affilié à Al-Qaïda soit de conduire des actions projetées en France, comme vous le disiez. Je ne prendrai certainement pas le risque de vous dire que ça n'est pas possible.
Oui, oui.
Il y a évidemment une porosité et une population et d'ailleurs une communauté malienne très importante en France. Et évidemment, la France peut être demain... sous la menace d'actions projetées de la part d'un groupe comme celui-là.
Alors, de 3 000 à 7 000 militaires seront déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État face à la résurgence de la menace terroriste en France et après les 3 attentats qu'on a connus sur le territoire national. Est-ce que l'ensemble d'abord des effectifs, ça y est, sont sur le terrain ?
Alors, les effectifs aujourd'hui sont à hauteur de 5 000 déployés. 5 000. Et avant mercredi, nous aurons atteint la totalité du déploiement des 7000 hommes sur le terrain, sur le territoire.
Donc
national.
Principalement affecté à la protection des lieux de culte et des écoles.
Principalement affecté à la nécessité de faire peser une menace d'imprévisibilité là où il y a de la population française qui pourrait être une cible de la part de terroristes. Ce que nous évitons à tout prix, c'est précisément de dire on va surveiller tel lieu de culte, telle école. Évidemment, on va être là où la menace est la plus prégnante, et on l'a vu, elle est prégnante sur l'éducation nationale, et ce d'autant plus qu'en cette période de confinement ou de reconfinement, les écoles ne sont pas fermées, les lycées, les collèges, et donc évidemment, il y a une attention particulière posée sur ces écoles. Mais de manière générale, le dispositif Sentinelle, il doit être le moins prévisible possible, le plus aléatoire dans ses modes d'action, et surtout le plus réactif possible.
Et la difficulté, c'est que les militaires sont eux-mêmes, on l'a vu par le passé, des cibles aussi de la part des terroristes. Ils peuvent être pris pour cible, ils peuvent être attaqués. Quelles sont d'ailleurs les règles d'engagement des militaires sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle ?
Alors d'abord, le fait que les militaires soient éventuellement pris pour cible, ou soient des cibles possibles, comme les forces de l'ordre d'ailleurs, comme les autorités de manière générale, nous l'assumons pleinement. Ça veut dire que les militaires acceptent de prendre une partie de cette menace sur eux. Par ailleurs, ils ont des effets de protection et des armes qui sont là pour leur permettre d'agir. Et de ce point de vue, depuis le début de cette opération Sentinelle, à chaque fois que des militaires ont été attaqués, à la fois les réactions et les équipements des hommes ont permis de réagir de façon efficace et avec un maximum de maîtrise de la violence. Ensuite, les règles, c'est les règles normales de la légitime défense. On y ajoute la possibilité pour les armées, dans le cadre de l'opération Sentinelle, d'ouvrir le feu après sommation, pour protéger de la population ou pour protéger des éléments menacés.
Est-ce que les troupes françaises ont les moyens aujourd'hui de ce déploiement ? C'est vrai que les missions sont nombreuses, maintenir la dissuasion militaire, protéger le territoire national avec Sentinelle, avec plusieurs milliers d'hommes, assurer les opérations extérieures et garder aussi une force de projection en cas de crise. Est-ce que les armées en ont les moyens ? Autrement dit, pour parler clair, est-ce qu'on ne vous en demande pas trop, en général ?
D'abord, les armées, elles ont toujours les moyens d'agir dans l'urgence et le chef de l'État, qui sait qu'il a là le moyen une réaction immédiate, efficace, le sait parfaitement. Ensuite, c'est toujours une question de choix. Ce qui se fait là se fait au détriment d'autres choses. Se fait en créant ce qu'on appelle, nous, une forme de dette organique. C'est-à-dire que les soldats qui sont engagés à hauteur de 7000 hommes sur le territoire national ne sont pas en train de se préparer à être engagés dans des opérations de plus en plus dures. Et donc, on crée une forme de dette de préparation opérationnelle. Objectivement, aujourd'hui, compte tenu du niveau de l'armée française, en particulier de l'armée de terre pour elle, qui est concernée plus particulièrement par Sentinelle, de l'effort qui est fait dans le cadre de la programmation militaire et de la loi de programmation militaire pour rehausser ce niveau de préparation opérationnelle, je n'ai pas d'inquiétude. Ensuite, il faut juger la durée de cet engagement et il faut, vous avez raison de le dire, juger les autres très nombreuses sollicitations dans un milieu géopolitique et géostratégique qui se dégrade.
Très bien, on va en parler dans quelques secondes, toujours avec vous, mon général Lecointre, qui est ce soir notre invité exceptionnel, jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel dans le grand entretien à 19h41, on est toujours avec le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui est notre invité jusqu'à 20h. Mon général, dans une interview récente, vous avez dit qu'à plus long terme, un conflit majeur pourrait nécessiter un engagement fort. Vous citiez 2030 par exemple. C'est quelque chose de possible, dites-vous. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des zones de tension qui vous inquiètent particulièrement? On pense évidemment, vu les derniers événements, on pense à la Turquie, on pense à la Chine à plus long terme. Est-ce qu'il y a des zones qui sont particulièrement inquiétantes?
D'abord, il y a des zones qui sont de toute évidence des zones dans lesquelles la conflictualité, le risque d'évolution mal contrôlées et sont en train de se multiplier. Voilà. Vous parliez, vous avez raison, de la Méditerranée orientale, je dirais de toute la Méditerranée. Aujourd'hui, la Méditerranée centrale, où nous sommes engagés dans le cadre de l'opération européenne Irini, est un lieu de déstabilisation important. Nous sommes également engagés, et ce n'est pas par hasard, dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, pour des missions de contrôle et d'acquisition de renseignements. Nous sommes dans le canal de Syrie, et vous voyez bien toutes les tensions qui naissent aujourd'hui du fait de l'attitude de la Turquie, mais de manière générale, et c'est ce que je crois le plus frappant, de l'attitude de nouveaux acteurs de la vie internationale qui ne respectent pas ce qui nous semblait être un cadre immuable, qui garantissait la stabilité, qui était un cadre du multilatéralisme, du règlement par le droit des conflits et des tensions. Ça, c'est remis en question complètement avec des puissances de plus en plus désinhibées qui s'expriment en dehors du respect du droit international, en dehors des règles de la guerre, et qui mettent en danger cet équilibre général. Et au-delà de ce qu'on peut observer aujourd'hui, dans le temps présent, des tensions qui naissent, et vous avez raison d'évoquer la Turquie, mais il n'y a pas que la Turquie, et ce qui se passe en Libye fait intervenir d'autres acteurs, évidemment, et la Russie au premier titre. Au-delà de ce qui se passe aujourd'hui à nos portes, et ça me semble très important, et je pense que nos concitoyens ne le mesurent pas assez, on est aujourd'hui dans la zone d'intérêt de l'Union européenne, on est sur nos côtes, on est dans notre mer, dans notre bien commun, et ces menaces de déstabilisation sont importantes. Au-delà de ça, il y a évidemment un risque à 10, 15 ans, parce que je ne vois pas à cet horizon-là de raison que ces facteurs de désintégration de l'ordre international fondé sur le droit et sur le multilatéralisme ne viennent à s'apaiser.
Alors, permettez-moi une petite parenthèse, parce qu'on parle de la Turquie et des événements récents liés à la liberté d'expression, aux caricatures de Mahomet et d'une certaine manière au discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que sur l'islam radical, on a été collectivement un peu trop laxiste avec l'entrisme religieux sur ces 10, 20, 30 dernières années?
Très honnêtement, ce n'est pas mon sujet. Ce que j'observe, c'est que les armées françaises sont engagées de façon absolument pas laxiste et au contraire extrêmement active et en payant le prix du sang contre cet islam dont elles mesurent clairement les effets, dont elles mesurent la violence et contre cet islamisme et contre ce terrorisme islamiste, qu'il s'agisse de l'engagement en Irak ou qu'il s'agisse, et au Levant de manière générale, ou qu'il s'agisse de notre engagement en Afrique.
Mais c'est un sujet qui peut toucher l'armée de l'intérieur aussi, la radicalisation.
Alors, on est attentif à ce sujet-là. Nous n'observons pas aujourd'hui de radicalisation dans les armées françaises. C'est suivi de très près par les services du ministère des Armées qui rendent compte à la ministre régulièrement de ce sujet-là. Ce qui me frappe, c'est que l'acte d'engagement d'un soldat français, quelle que soit son origine, l'origine de ses parents et de ses grands-parents, est d'abord un acte extrêmement citoyen. Et donc, il procède d'une volonté de servir son pays de la façon la plus extrême qui soit, qui ne nous guérit pas, ne nous préserve pas absolument de ce risque, mais qui nous met très sérieusement à l'abri. Et ça crée une sorte de culture collective désarmée, une culture de service, d'adhésion aux trois couleurs, d'adhésion aux idéaux de la République qui est extrêmement puissante.
D'ailleurs, en général, on ne parle pas, je crois, d'ascenseur social dans l'armée, mais on parle d'escalier car on monte les marches les unes après les autres.
Oui, c'est vrai.
Je voudrais vous poser une question sur la crise sanitaire. Certains s'étonnent que face à l'urgence et pour soulager les hôpitaux qui sont débordés, l'armée n'a pas été mobilisée pour monter des hôpitaux de campagne. On se souvient que ça avait été le cas notamment en mars dernier où 30 lits de réanimation avaient été installés en urgence dans le Grand Est. Ça s'était fait sur l'hôpital de Mulhouse, sur le parking. Pourquoi ça n'est pas le cas cette fois alors que le président nous dit que la situation est plus grave que lors de la première vague?
Alors, d'abord, il y a une raison très simple, c'est que les moyens du service de santé des armées rapportés aux moyens de la santé publique en France sont ridicules. On parle d'1% des moyens totaux du service de santé publique. Le service des santé des armées a d'abord comme mission première l'accompagnement des forces au combat en opération.
Donc, mais pour parler clair pour tous les gens qui nous écoutent, ça veut dire que les armées n'ont pas la capacité de monter des hôpitaux de campagne partout pour prendre en charge les patients en réanimation qui submergent les hôpitaux.
Exactement.
Oui.
Les armées, en revanche, ont une capacité forte à projeter un endroit précis pour produire un effet précis, des moyens dans l'urgence qui, par ailleurs, pourront se passer éventuellement d'infrastructures lourdes, etc. C'est ce qui s'est fait effectivement à Mulhouse lors de la première vague. C'est ce qui vient de se terminer aujourd'hui en Guadeloupe, où nous avons désengagé très récemment notre élément militaire de réanimation. Et c'est ce que nous sommes prêts à refaire dans tel ou tel endroit où le besoin en sera avéré pour venir dans l'urgence combler un besoin particulièrement prégnant. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, la crise est généralisée sur le territoire métropolitain. Oui. Et que cette capacité-là, finalement, est assez peu utile. Et que, sauf à la disperser, ce qui la diluerait entièrement, ne présente pas d'avantage. On a quand même un regard particulier sur les territoires et les départements d'outre-mer. J'évoquais à l'instant l'intervention que nous avons faite en Guadeloupe. Nous avons envoyé une mission d'études en Polynésie française pour voir quel était le besoin précis. Voilà. Ce que nous ferons, c'est un emploi des capacités militaires en ce qu'elles ont de spécifique, de très réactive, d'une capacité d'emploi très forte, par exemple, de transfert d'une zone à l'autre. On a récemment transféré depuis Avignon jusqu'à Brest, la semaine dernière, des malades grâce à un kit qui s'appelle le kit Morphée, qui permet de transporter des malades en réanimation dans un avion militaire. Mais aujourd'hui, cette capacité-là, elle est de moins en moins nécessaire en réalité.
Alors, mon général, pour terminer, il nous reste quelques instants. Question peut-être plus personnelle. Vous êtes un chef qui a l'expérience du terrain, de beaucoup de conflits, le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, avec l'assaut du pont de Verbania, tenu par les Serbes à l'époque, la première guerre du Golfe également, en passant par la Somalie. On dit qu'il est rare qu'un officier de votre niveau ait une telle expérience de terrain. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires qui ont accompagné votre nomination. Quel est le rapport que vous entretenez avec vos troupes et comment vit-on, quand on est un chef comme vous, la mort de ces soldats?
Merci, parce que votre question est très profonde et elle me touche profondément. D'abord, ce que vous dites est très vrai. D'abord, les officiers de ma génération, qui sont aujourd'hui aux commandes des armées, ont vécu cette période, et ceux de la génération montante encore plus. Et donc, nous sommes une génération de militaires, de soldats, qui auront été ensemble avec leurs hommes au combat. Ensuite, ce que vous dites est très juste, c'est pas un chef seul devant ses hommes, c'est un chef avec ses hommes. Et toutes ces opérations qui nous engagent, qui nous éprouvent profondément parce qu'elles nous conduisent à donner la mort, qu'elles nous conduisent à voir les nôtres mourir ou tomber blessés à nos côtés, sont d'abord des éléments vécus collectivement, qui créent une fraternité. Et le terme de fraternité d'armes n'est pas un terme vain. Il y a réellement, et je pense à chacun des hommes que j'ai commandés, à chacun des hommes avec lesquels je suis allé au combat, quand je ferme les yeux, j'ai leur visage dans la tête, c'est une vraie relation de fraternité. Elle crée un lien parfaitement unique aux armées, très singulier, très fort, très puissant. Elle crée un lien unique et fort avec nos familles. Elle crée un lien qui est entretenu avec nos blessés. Tout ça est très fort, doit être aussi un ferment d'ailleurs d'union nationale et doit inspirer nos concitoyens. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, on pourrait en parler indéfiniment.
J'imagine que vous aurez une pensée pour à la mort. Tous ces soldats morts au combat le 11 novembre prochain.
Alors on va arriver au moment du 11 novembre à cela. Un mort au combat, c'est quelqu'un qui accepte de donner sa vie pour son pays en allant lui-même donner la mort, c'est-à-dire en faisant la chose la plus extrême qui soit. Cet engagement-là, il est proprement héroïque. C'est l'engagement de tous nos soldats de France et nous devons être extrêmement fiers d'eux. Et à chaque fois que je vais devant ces monuments, nous allons arriver à une année d'anniversaire de l'inauguration de ce monument aux morts en opération extérieure. Je suis ému et confiant de voir que cette belle jeunesse de France, elle continue à s'engager dans ces guerres, dans ces conflits, avec un sens du service absolument admirable.
Bien. Merci infiniment pour ces mots de conclusion, mon général. Merci, général Lecointe, de nous avoir accompagnés dans le grand entretien d'Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des idées d'Europe Soir, et comme chaque jour à la même heure, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Pauline Jacob, vous nous avez rejoint dans le studio d'Europe Soir. Alors pour poursuivre le grand entretien avec le général Lecointre, on voulait vous raconter ce soir le jour où l'opération Sentinelle a été déclenchée en France. Ces militaires que nous voyons aujourd'hui dans les rues, les gares, les aéroports, ils ont été déployés il y a presque 6 ans maintenant, à la suite des attentats de janvier 2015. Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher. François Hollande déclenche alors l'opération Sentinelle et depuis jamais le pays ne s'en est passé.
Exactement, mobilisation extrêmement rapide. En 3 jours, 10 500 militaires sont déployés partout en France. Des hommes, des femmes armés de fusils d'assaut. Objectif, protéger, dissuader, rassurer. La menace est très élevée, déclare Jean-Yves Le Drian le 13 janvier 2015 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Il faut surveiller les sites sensibles. Le ministre de la Défense acte la mise en place du volet militaire de Vigipirate.
Aujourd'hui, c'est une singularité nouvelle et grave. Il n'y a pas de rupture entre la menace extérieure et la menace intérieure.
C'est quoi un site sensible, par exemple ?
Un site sensible, c'est un site qui pourrait faire l'objet d'une attaque par un groupe terroriste qui peut être, par exemple, une mosquée, par exemple, une synagogue, par exemple, une école juive, par exemple, un site militaire, par exemple, un lieu public particulier.
Mais ça veut dire les gares, les aérogares, les aéroports.
C'est une opération militaire.
Les mois passent, le nombre de militaires diminue de quelques milliers, mais après les attentats du 13 novembre, nouvel effort. Il y a face à l'effroi une nation qui sait se défendre, déclare François Hollande. L'opération Sentinelle est renforcée, on passe à nouveau la barre des 10 000 soldats. Plus de patrouilles dans les rues de Paris, autour des sites culturels, des écoles et des centres commerciaux.
Oui, l'opération Sentinelle est en fait redessinée à chaque attentat, Pauline.
Oui, Nice, l'attaque sur la promenade des Anglais en 2016, 3 000 soldats sont rappelés en 24 heures. Les forces militaires sont réorientées vers les grands rassemblements, les contrôles aux frontières. Déjà des signes de fatigue de ces soldats, puisqu'à ce moment-là, 2 000 militaires n'ont pas pris de congé depuis 2015 et certains ont accumulé 3 mois consécutifs de mission.
Et ce qu'on évoquait avec le général Lecointre, c'est que ces forces sentinelles sont également devenues des cibles.
Exactement, il y a eu l'agression devant la mosquée de Valence en 2016. L'attaque du Louvre l'année suivante, intervention décisive d'ailleurs des soldats de Sentinelle. À chaque fois, François Hollande salue les militaires, salue leur efficacité et réitère la nécessité de cette opération. Ce sont encore ces militaires à Orly qui sont attaqués par un homme le 18 mars 2017. Marguerite Lefebvre raconte en direct de l'aéroport.
Ils ont vu cet homme s'en prendre à une militaire de Sentinelle, tenter de s'emparer de son arme. David réparait un ascenseur à une dizaine de mètres de la scène.
J'entendais des cris, donc je suis sorti. J'ai vu les deux militaires mettre en joue l'individu, en fait. Lui, il est en train de passer l'arme autour de lui. J'ai entendu deux coups de feu. Et en fait, lui, il s'est abaissé comme s'il voulait esquiver les tirs par peur. En fait, il s'est abaissé derrière la Sentinelle.
Encore ces militaires de Sentinelle, 4 mois plus tard, qui sont percutés par une voiture à Levallois-Perret, en région parisienne. Des soldats qui sont désormais intégrés dans la vie quotidienne des Français. Roselyne est au micro de Rémi Bostaron.
On les voit partout, partout, partout. D'ailleurs, un jour, je me baladais dans Levallois et je leur ai dit merci de nous protéger. Ces militaires, ils ont des parents, ils ont des enfants peut-être. Donc toute personne qui est agressée, ça nous touche. Moi, ça me touche beaucoup en tout cas.
6 blessés dans cette attaque terroriste, la 6e en 2 ans contre les soldats de l'opération Sentinelle.
Attaque Pauline qui ouvre alors le débat sur sa légitimité.
Opération risquée, disent certains, elle fait en tout cas de moins en moins consensus. Critiquée, elle doit être réorganisée, c'est chose faite. En septembre 2017, le mot d'ordre est clair, ne plus être partout, mais être là au bon moment. Car les troupes sont épuisées, comme en témoignent à l'époque ces 2 militaires sur Europe 1.
On a un bardage avec un gilet pare-balles, un casque lourd, le fusil d'assaut. On est équipé comme des porte-avions et après le repos à côté de ça, il n'est pas fait pour. Il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps aux aguets. Et ça fait partie aussi de la fatigue mentale.
J'essaye de ne pas agir sur le coup de l'émotion, de ne pas faire une connerie. Ou... Je savais que m'engager dans cette institution, c'était dur, mais que ça devient ingrat comme ça, non.
Opération Sentinelle sollicitée lors des attentats à la gare Saint-Charles à Marseille, l'attentat du marché de Noël à Strasbourg. Opération renforcée donc il y a quelques jours après l'attaque à Nice. Le président Emmanuel Macron a annoncé le passage de 3000 à 7000 militaires sur le sol français.
Merci infiniment Pauline Jacquot pour ces archives de la création de Sentinelle en janvier donc à 2015. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h58, vous restez avec nous évidemment. Dans un instant, le rappel de l'info avec les principaux titres. Julien Pierce et puis juste après, Émilie Mazoyer pour la musique avec ses invités. Ça va nous faire du bien, tiens, en début de semaine. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, à partir de 18h. Et on parlera évidemment du grand jour aux États-Unis, les élections américaines. Merci de votre fidélité. Ciao, à demain.
Europe 1.